Être une bête de scène, à quoi ça tient, cette métaphore animale, quelle que soit la salle, le public, la lumière, juchée sur une tribune devant une foule en liesse ou une marée populaire? Est-ce que ça tient vraiment au charisme de l'orateur? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que ça tient au nombre de participants ou de spectateurs? C'est l'éternelle question. À l'heure où l'on compte, on décompte, on juge, on jauge. À l'heure où le chiffre a bien plus de valeur, hélas, que le sens. Sauf que tout le monde le sait, on peut être une bête de scène devant trois pelés et un tondu. Ce qui fait la performance, c'est l'adhésion, en l'occurrence, appelez ça comme vous voulez, le collectif, le rassemblement, la convergence, ce moment où le chef de bande fait corps avec le public, quel qu'il soit, au point de se fondre en lui, abolition de toute hiérarchie, sur les planches comme dans la fosse. Soudain, tout le monde ne fait qu'un. Il ne reste que ce moment partagé entre l'artiste, l'auditoire et les musiciens, le grand spectacle collectif qui est gravé instantanément dans les mémoires de chacun. Ma théorie, c'est qu'étrangement, n'est bête de scène que celui ou celle dont le nom s'efface au profit des autres, quelle que soit la salle, le public, la lumière, juché sur une tribune devant une foule en liesse ou une marée populaire.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est une bête de scène qui sévit depuis bientôt 60 ans. Il vient de sortir le deuxième volume de son projet de reprise et de duo, cette même tribu qui réunit quelques-uns des grands noms de la chanson française, de Véronique Sanson à Juliette Armanet, en passant par Maxime Le Forestier, Laurent Voulzy ou Thomas Dutronc. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'est quoi une bête de scène pour vous?
C'est quelqu'un qui s'amuse bien d'abord, surtout, et qui prend du plaisir à donner du plaisir.
Vous en connaissez, vous?
Oui, j'en connais quand même.
Pensez à qui?
Je pense bien sûr à mon ami regretté Johnny, qui est une bête de scène. Je pense à certains Américains qui sont extraordinaires, enfin qui l'étaient tout au moins, tels que, je sais pas, Jerry Lewis, Little Richard, gens comme ça.
Et c'était la joie qu'on voyait chez
eux? Oui. C'était, avant toute chose, je dis bien, se faire plaisir, mais donner beaucoup de plaisir.
Et quel lieu est-ce que c'est pour vous, la scène, Eddie Mitchell? Quand vous avez le public en face de vous, que vous êtes en pleine lumière,
C'est formidable. Par contre, la chose à laquelle on pense surtout, enfin dans mon cas, c'est est-ce que l'orchestre va bien? Parce que ça, il y a toujours le côté, c'est une famille quand même, musicien, chanteur, etc. Et donc on discute avant, et si le batteur arrive en disant « Oh, je me suis foulé le poignet », ça fait un peu désordre, vous voyez. Donc, enfin, c'est des blagues hein, qu'on se fait. C'est des blagues, le type arrive avec le poignet bandé, il fait « Ah oui, je me suis cassé la gueule, mais quand tu vas jouer, je sais pas ». Puis finalement, c'est pipeau.
Je crois qu'en 2011, vous avez fait vos adieux à la scène, ouais. Et ça vous a pas empêché quand même d'y retourner. Avec Johnny, avec Dutronc aussi, les vieilles canailles, c'était pas rien ça quand même.
Non, mais ça, c'était de la faute. Enfin, là, c'était grâce ou à cause de Johnny qui tenait vraiment à remettre le couvert. Parce que pour moi, je suis pas passéiste et donc les vieilles canailles, on l'avait fait, bon, passant à autre chose. Donc, il a voulu remettre ça et comme on pouvait pas refuser quoi que ce soit à Johnny, bon, on y a été.
Vous remettrez ça encore une fois, peut-être, sans lui?
Non. Ah non, sans lui, c'est pas possible.
Je crois que vous aviez 14 ans, Eddie Mitchell, quand vous avez donné votre premier concert. Quel regard est-ce que vous portez sur le gamin que vous étiez à l'époque?
Ah ben, je suis assez attendri parce que je trouve qu'il était gonflé, quoi, quand même.
Ah, il était gonflé?
Oui, parce que chanter chanson d'Eddie Constantine, qui était rock'n'roll en plus pour l'époque, ça se faisait pas, qui s'appelait Rock, 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 et bon, avec juste un piano, c'était pas évident.
Il voulait quoi? Il rêvait de quoi, ce gamin?
Il voulait vivre quel genre de vie? C'est d'ailleurs un peu le reflet de la chanson que m'a écrite... Voulzy et Souchon, c'est un peu l'esprit Grande Prairie, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas là, quoi. Vraiment, j'étais pas là, j'étais ailleurs.
Il est toujours là aujourd'hui, le petit Claude Moine?
Dans mon cœur, oui, bien sûr. Oui.
Parce que moi, en tout cas, j'ai l'impression que les jeunes de votre époque, tous ceux qui ont grandi dans les années 50, ils avaient tous leurs yeux braqués vers un pays, vers les États-Unis. Votre fascination pour les États-Unis, pour son cinéma, mais aussi pour sa musique, ses espaces, elle est née comment?
Oui. Ah bah ça c'est né, c'est la faute de mon père, enfin c'est grâce à mon père plutôt.
Ça fait deux
parce
fois.
Que, oui, ça fait deux fois que je dis c'est à cause ou à deux de la faute. Et parce que mon père était un cinglé de cinéma, et mon père travaillait la nuit, dormait très peu, et il venait me chercher à l'école, et on allait directement au cinéma, aller te voir Adieu. Et après mon frère rentrait lui de travailler, on retournait au cinéma. Donc on voyait tous les films en technicolor avec des gonzesses insensées, avec des cheveux pas possibles, avec des poitrines extraordinaires. Et c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs parce que Quand la première fois que j'étais aux États-Unis, je crois que c'était au Texas ou Arizona, je ne sais plus exactement, je pensais que c'était faux, ce Technicolor. Et finalement, vous posez la caméra, vous attendez le coucher de soleil, et puis vous l'avez, quoi. Il y a les mêmes couleurs, là. C'est incroyable.
Et Elvis, c'est le même, en vrai?
Elvis, c'était plutôt mon copain Johnny qui était fou de Elvis. Moi, j'aimais bien, hein, bien sûr. J'aimais beaucoup, mais pour moi, c'était un chanteur, voilà. C'était un chanteur avant toute chose, c'était un excellent chanteur, d'ailleurs. Mais c'était pas l'emblème du rock'n'roll pour moi.
Mais écouter du rock'n'roll, ça voulait dire quoi, justement, pour un jeune de votre âge dans les années 50?
Bah, ça veut dire que c'était une révolution, c'était extraordinaire, puisque moi, j'ai été nourri par la faute de ma mère aux opérettes. Donc, je me suis mangé tout Mariano, je me suis mangé Guettari. Quand il n'était pas là, on allait voir les remplaçants, Rudy Rigoyen, Paul Merkès et Colt Merval. Donc, je me suis mangé tout ça. Donc, d'un seul coup. Et pour l'anecdote, le truc qui est drôle, un jour, on a arrêté d'y aller parce que j'étais tout gosse, hein, je devais avoir 7-8 ans. Et c'est la première fois que je voyais Mariano et j'étais écroulé de rire. Je croyais que c'était un grand comique, moi. Parce que ce type qui arrivait engoncé dans son costume blanc qui arrive et qui dit « Grenade, me voici !» dit ça, c'est un comique.
Ils ont dû être vexés, vos parents.
Ah ben oui, on a été virés de la salle. Donc j'avais un fou rire. Mais en plus, Mariano, je l'ai rencontré après, c'était un être absolument exquis. Parce qu'un jour, j'étais en tournée, et une fois de plus, et on avait chanté, je sais plus où, dans un bled la nuit, et puis le lendemain après-midi, on était, bien sûr, c'est tourné à l'époque, c'était du genre Marseille-Dunkerque, dans la journée, pas grave, bon. Et j'arrive dans cette petite ville, et on m'indique que les loges, c'était la mairie. Et à la mairie, j'arrive, et il y avait Mariano qui était écroulé de rire, qui me regarde. Ah, il dit, Michel, ah là là, mais qu'est-ce que j'ai? Je dis, j'ai pas la brigade ouverte, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous avez pas vu l'affiche? Et non. Et c'était Festival de l'Andouille avec Luis Mariano et Eddie Mitchell. Donc ça fait une affiche extraordinaire. Et c'était vraiment la vedette, c'était le plus grand mangeur d'andouille. C'était pas Mariano ni Eddie Mitchell, c'était le plus grand mangeur d'andouille. Le type qui arrivait à bouffer, je sais pas, 150 andouilles. Bon.
Les États-Unis, c'est toujours un fantasme pour vous?
Non. Vous savez, vous l'avez très bien dit. Moi, même étant gosse, c'était la musique, le cinéma, les grands espaces. Le reste ne m'intéresse pas puisque... je suis latin et j'ai pas du tout la même façon de vivre que les Américains qui sont très proches de l'Allemagne quand même. Donc,
surtout aujourd'hui, oui. Je propose qu'on mette le cap plein ouest, Eddie.
Oui.
On saute par-dessus l'Atlantique et on se retrouve, allez, au volant d'une vieille Chevrolet quand même un peu déglinguée sur la route de Memphis.
If you love somebody enough, you'll go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis.
On fera une petite halte à l'église du coin, histoire de faire un petit boogie woogie.
Ah, le boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas le boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoque pas votre père le diable.
De chance, on arrivera à choper la dernière séance.
C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
Et puis on fera une petite promenade digestive dans le cimetière des éléphants.
Mourir au cimetière des éléphants. Regardez, je vais m'emporter.
Et je regarderai vos yeux, Eddie. Vos yeux couleur mentale au juste pour l'occasion.
Et moi je n'en pouvais plus.
Elle n'en a jamais rien su.
Ma plus jolie des mythos.
Couleur mentale.
Avec Grégory Porter, Calogero, Cécile de France, Véronique Sanson ou Juliette Armanet. Tous ces titres, ils sont présents sur le deuxième disque de votre grande tribu. C'est marrant parce que j'ai l'impression que le côté hommage, au départ, ça vous laissait un petit peu sceptique.
Oui, moi je trouvais que ça avait un petit côté ramenard, un petit côté moi.
Ou mort.
Ou alors pas du tout en bonne santé, ce qui n'est pas mon cas. Et, Non, mais le fait que j'ai interprété avec ces participants formidables une façon complètement différente que les originaux, à savoir que j'ai fait pas mal de contre-champs assez astucieux, il faut bien le dire. enfin bref, voilà, donc c'était... Ça avait beaucoup de charme, quoi.
Et puis les artistes que vous réunissez, qu'est-ce qui vous intéresse, par exemple, musicalement, chez quelqu'un comme Thomas Dutronc?
Ah bah Thomas, il fait partie de ma vie. Thomas, c'est... Enfin, je ne l'ai pas élevé, hein, bien sûr, mais Thomas, je lui ai donné ses premiers jouets à Thomas.
Quel jouet?
Ah bah, à l'époque, les petits garçons, généralement, c'était les petites bagnoles, c'était les petits soldats, c'était des choses comme ça. Et lui, maintenant, ça se fait beaucoup plus, mais lui, c'était les diplodocus. Alors, fallait en trouver. Hein. C'était pas évident.
Vous savez quoi, Eddie, on l'a appelé.
Oui.
Thomas Dutronc. Allô?
Allô?
Allô, Thomas?
Allô? Pour moi, Eddie Mitchell appartient à la famille d'artistes un peu comme mes parents, quoi. C'est la génération années 60, quoi. Le Golf Drouot. Je sais pas, Eddie pourra peut-être expliquer mieux que moi ce que c'était. Qui ont connu l'arrivée des rockers, de Gene Vincent, des Shadows, quoi, le son de la Stratocaster, de la guitare électrique. D'un seul coup, ça a révolutionné un peu la chanson, on va dire, cabaret rive gauche. D'un seul coup, ça a fait, ils ont fait un sacré remue-ménage. Donc, ils ont vécu ce moment incroyable dans les années 60. Et voilà, et en partant de jouer dans des caves à copier Gene Vincent et tout ça, c'est devenu un géant de la chanson française. Ouais, j'espère qu'il y a un peu des Mitchell en moi. Moi, quand j'étais petit, j'étais fan absolu d'Eddie et de Alain Souchon aussi, et ma mère m'emmenait tout le temps dans les concerts. Donc voilà, j'apprécie avant tout cette manière de ciseler ces textes sur les mélodies, sur des mélodies magnifiques. Et j'essaye de partager aussi le côté live, c'est-à-dire de m'éclater sur scène avec les musiciens pour le public. C'est-à-dire de pas jouer spécialement pour le public, mais d'abord de jouer pour la bande, quoi, pour les musiciens, pour le groupe, qu'on se marre, nous, musicalement. Donc je trouve Eddie, en live, c'est très vivant, très authentique. Il a une équipe, il a des musiciens avec qui il joue depuis des lustres, et ça se sent et ça s'entend. Et ça, je j'ai pas copié sur lui, mais je me sens proche de cette idée.
C'est vraiment la famille, hein.
Oui, c'est vrai.
Il parle du Golf Drouot.
Oui.
Ah, faut nous expliquer. C'était quoi?
Le Golf Drouot, c'est un endroit où Johnny, Long Chris et moi avons... non pas débuté, mais avons foutu un petit peu en l'air le lieu que c'était. C'était un golf miniature avec le thé pour les dames, enfin un truc comme ça. Et il y avait un jukebox extraordinaire. Et on a été voir le patron, qui était Henri Leproux. On lui a dit, est-ce qu'on peut amener nos disques? Et lui, il a pas fait gaffe, il a dit, bien sûr. Alors que moi, à l'époque, ça passait du Xavier Cugat, c'était déjà pas mal d'ailleurs, mais... Il y avait aussi du André Claveau, il y avait des choses comme ça.
Il a regretté, quoi. Le patron, ou pas?
Non, il a pas regretté, parce que son truc, ça a déménagé tout de suite. Hein.
J'ai l'impression, Eddie Mitchell, que être à la mode, c'est quelque chose que vous n'avez jamais recherché. Ça a jamais été un objectif pour vous?
Non, parce que je ne sais pas le faire. Contrairement, à mon camarade Johnny, qui était passé, lui, de Bonnie and Clyde au hippie, en passant un petit peu aussi chez Hamlet. Donc, on savait plus où on était, mais... On le suivait. Moi, je serais incapable de faire ce genre de choses.
Mais quand on est dans l'industrie du disque, est-ce qu'on n'est pas parfois incité à se renouveler, à aller vers des formes de musique, de production actuelles? Vous avez senti cette pression-là, cette envie-là de la part de producteurs?
Non, parce que moi, je supporte pas... ça, c'est viscéral. Hein. Je peux pas avoir un clavier qui n'est sans un être humain derrière. Je peux pas avoir une boîte magique qui fait de la batterie sans batteur. J'aime pas ça, donc il faut des êtres vivants.
Et puis musique aussi qui est éternelle quelque part. Le rock'n'roll, le blues, ça change pas.
Oui. Bon, enfin, il y a pas que ça. Il y a aussi tout simplement d'excellentes chansons, d'excellents thèmes. Et je pense notamment à ce qu'a pu composer pour moi Pierre Papadiamandis, qui est mon vieux complice. Et il a écrit des trucs formidables.
Comment vous expliquez, Eddie Mitchell, qu'aujourd'hui le rock ce soit plus la musique que les jeunes écoutent, qu'ils écoutent autre chose?
je vais pas être très poli, mais je crois qu'on leur a mis de la merde dans les oreilles, parce que ça s'appelle pas autrement. Parce que ils vont vers la facilité. Vous voyez, bah, le smartphone, on écoute de la musique sur un smartphone. Moi, je comprends pas. C'est pas possible. Moi, la musique, ça s'écoute sur une bonne chaîne avec des bons baffles, une bonne platine, et puis voilà. Et bon, mais ça, c'est mon opinion. Maintenant, chacun fait comme il l'entend.
Tu es sûr que vous écoutez du rap, en vrai?
Non, j'ai rien contre le rap, parce que le rap, ça peut être drôle.
Et puis, il y a un soin qui est apporté au texte. Quand même, et le texte, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, vous. L'écriture, qui est très importante chez vous, elle est arrivée à quel moment de votre vie? Quand est-ce que vous avez commencé à écrire vos propres textes?
Bah, dès le début, et même si c'était pas terrible, mais ce qu'on me proposait était encore pire. Donc, à ce niveau-là, je peux y arriver.
Et ça vient d'où, cet amour des mots?
Oh, bah, ça vient de mon père aussi, parce que mon père était un grand, grand lecteur.
Et vous aussi?
Oui. Parce qu'on avait un cousin qui travaillait chez Gallimard, et mon père, toutes les semaines, allait chez Gallimard et prenait les invendus, les bouquins où il y avait quelques erreurs de feuilles attachées, trucs comme ça. Et donc, il arrivait à la maison avec son sac à dos, et il livrait. Il y avait aussi bien, je dis n'importe quoi, Flaubert que Peter Chenet, donc on se mangeait tout.
Et vous n'avez jamais arrêté de lire?
Ah non, jamais. Ah, puis je continue.
Vous lisez quoi en ce moment?
Alors, en ce moment, je lis le nouveau Michael Connelly, qui est avec l'inspecteur Bosch, bien connu de nos services, et son fameux avocat à pote. Non, c'est pas mal.
Et ça vous met dans quel état? Ça vous empêche d'avoir le blues, la lecture, tiens?
Ah oui, bah oui, parce que bon, on s'évade. Hein.
Qu'est-ce qui vous fiche le blues, vous?
Bah, ce qui me fiche le blues, c'est de regarder les infos, LCI, BFM, etc. Ça me fout le blues. Mais bon, faut aussi se rencarder sur ce qui se passe, donc ça fait partie de la vie.
Ouais,
c'est bluesy, c'est quand même.
Je propose qu'on l'écoute, le blues. Mais alors, votre blues,
ah bon.
Eddie Mitchell, le blues du blanc, en duo avec Thomas Dutronc. Vous êtes sur France Inter,
oui.
Avec Eddie Mitchell. Vous écoutez Boomerang, lundi.
Un martini dry, une olive dans le verre,
plus une fausse blonde qui fume une vraie, faut le faire.
Manque plus qu'au piano, Nat King Cole,
dans blanche,
smoking rose,
chantant
un blues
pour blanc.
Moi j'ai le blues du noir et blanc au ciné.
Oh, les vraies rousses ne sont pas décolorées.
Quand le Big Band est vraiment grand,
j'ai le blues du blanc.
Du blanc. Pourtant j'ai pas bu.
Ah oui.
Des films j'en ai vu, où l'entraîneuse chante l'espoir en enlevant ses gants noirs. Blues du blanc, blues du blanc. Mel Tipobar en fait trop dans la frime.
J'aurai à mourir dès la première bobine.
Un homme de couleur, beau et grand,
j'ai le blues du blanc, du blanc. Pourtant j'ai pas vu, ah je sais, des films j'en ai vu, où le héros gagne tout le temps sans verser une goutte de sang. Oh, blues du blanc.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ah, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop à quelle sauce il va nous manger, hein, avec son air parfois un peu renfrogné de vieille canaille. Il pourrait aussi bien vous mettre son poing dans la figure que de vous donner un baiser. Des yeux clairs à tomber par terre, le cheveu dense et doux à vous rendre jaloux la carrure d'un athlète, à faire tourner les têtes. Il est tout en noir avec un jean quand même ce matin. Eddie Mitchell, invité de Boomerang pour le deuxième volet de ce projet, La Même Tribu. On vient d'entendre votre duo avec Thomas Dutronc et votre voix, Eddie, cette voix qui sonne toujours autant, qui sonne pareil pour moi en tout cas. Comment est-ce que vous la préservez, cette voix?
Ben, je fume, je bois. Non, mais il est vrai que il y a un an et demi, oui, j'avais arrêté de fumer, sur les conseils, bien sûr, de fameux Toubib. Et j'avais arrêté 4 mois, et j'avais une voix de fluet. Donc je me suis remis à fumer, et je l'ai retrouvé.
Évidemment, les auditeurs de France Inter ne suivront pas ce conseil.
Bah non, j'en souhaite pas. Mais s'ils n'ont pas besoin de chanter, ils peuvent arrêter de fumer.
Quand est-ce que vous avez découvert que vous saviez chanter?
Très jeune. J'avais 14, 15 ans. Oui.
Parce que vous chantiez juste et qu'on vous le disait?
Oui, je chantais un peu n'importe quoi. Enfin, j'imitais surtout très bien Eddie Constantine. Et d'ailleurs, j'en vivais pas mal de ce qui atterrait mon père, parce que je gagnais plus d'argent que lui en étant chanteur d'orchestre, et j'avais 15 ans. Quoi.
Donc, et ça a commencé comment? C'est en famille, vous chantiez Eddie Constantine, et on s'est dit...
Non, j'avais un ami qui avait un orchestre qui passait très souvent à la porte devant au Palais de la Mutualité, c'est vous dire, et qui faisait danser, et puis un coup il m'a dit, mais pourquoi tu viendrais pas chanter un petit truc? Bon, je suis venu, puis ça m'a plu, et puis ça a plu, et donc... Ensuite, j'ai commencé à chanter dans des cabarets, des boîtes de nuit, quoi.
C'était une voix quand même, Eddie Constantine. C'est quoi une grande voix pour vous?
Ah, moi j'adorais. Une grande voix. Ça peut être aussi barbant, hein, une grande voix, parce que par exemple dans les crooners, il y en a que j'adore, il y en a que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas, que je respecte. Mais par exemple, Tony Bennett ne m'a jamais fait de frissons. Il chante très bien, et alors bon.
Donc la grande voix, c'est le frisson?
Oui, c'est le frisson, c'est Nat King Cole, c'est Dean Martin, c'est Sinatra.
Et ça tient à quoi pour vous?
Ça tient à ne pas non plus se prendre très au sérieux, surtout. Surtout, et faire les choses qui sont sans intérêt, sérieusement.
Vous en voyez, vous en entendez des grandes voix dans la chanson française aujourd'hui?
Honnêtement, pas, non. Non, honnêtement, non. Il y a des choses intéressantes, il y a des chanteurs, il y a des chansons, mais des grandes voix, non. Puisque les grandes voix, c'est pas pour critiquer, mais si c'est pour regarder The Voice et entendre des mouflets chanter en anglais, je m'en fous.
Et quand ils chantent vos chansons à vous?
Mais ils chantent pas.
Bah, ça peut arriver.
Mais non.
Et comment vous réagiriez?
Oh ben, je réagirais bien. Ouf.
J'aimerais qu'on revienne un peu à cette chanson, Eddie Mitchell, le blues du blanc, où vous parlez autant de musique que de cinéma. Vous dites, j'ai le blues du noir et blanc au cinéma. Et le cinéma d'aujourd'hui, il vous file le blues?
Certaines fois, oui. Par exemple, on parlait du cinéma américain. Le cinéma américain, je trouve qu'il délaisse complètement les auteurs, les scénaristes, au profit des Avengers, des...
Il paraît qu'aujourd'hui, vous regardez que des séries.
Bah oui, parce que je trouve que dans les séries, je pense à l'Heroic Fantasy, je pense à Game of Thrones, je pense à des choses comme ça. Il y a beaucoup plus de recherches au niveau scénaristique, que dans Thor et son marteau.
Mais c'est étonnant quand même que le cinéma vous déçoive à ce point, vous
non,
qui avez...
Non, c'est passager, ça.
Il faut rappeler que vous avez partagé pendant 16 ans cette passion du 7e art, oui. Donc dernière séance sur France 3. Et le cinéma, dans votre jeunesse, c'était quelque chose qui vous a rêvé plus que tout. Dans la peau de quels acteurs, de quels personnages est-ce que vous vous imaginiez à l'époque?
Ah ben, moi, c'est simple. J'étais amoureux d'abord de toutes les filles que je voyais à l'écran. Ça, pour commencer.
Vous ne répondez pas à la question.
Non, mais si. Mais donc, je me mettais à la place du héros, quel qu'il soit. Parce qu'il partait avec la gonzesse, lui, quand même.
C'était qui,
le héros? Alors, c'était Stewart Granger, surtout. Stewart Granger, parce que je le trouvais très beau, élégant, beau mec, sachant manier l'épée, le flingue, tout. Et puis, partant avec la gonzesse à la fin, formidable.
Il est où le rêve pour vous aujourd'hui?
Le rêve, il continue, parce que, regardez, là, j'ai un coup de fil d'un type qui s'occupe de me retrouver des Blu-ray incroyables, etc. Il y a toujours des conneries à voir, hein.
Comme quoi?
Oh, bah là, il y a, Il y a le dernier des peaux rouges.
Voilà. Il y a des choses, effectivement, qui font rêver pour l'éternité. Si je vous dis, par exemple, Bill Haley,
ah, oui.
Olympia 58,
ah, oui.
Rock Around the Clock.
Eh bien, dans ce silence, je suis heureux de vous annoncer maintenant Bill Haley, Haley's Comets.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Come on, clock to 9, 30 o'clock, lights on. Join me on.
Formidable, c'est la révélation. C'est la révélation pour toute une génération, dont la mienne, bien sûr. Mais c'est c'était extraordinaire, Bill Haley.
Il paraît qu'il a changé votre vie, ce concert.
Ah oui, oui, ça a changé. Pas que le concert. La première fois que j'ai entendu Bill Haley, je dis bon, c'est pas là que ça se passe, quoi. C'est parce que, bon, on était nourris à... Il y avait des chanteurs français que j'aimais bien. Il y avait Salvador, il y avait Beko, Aznavour, Ali Constantine, voilà, des tas de gens comme ça. Mais ça restait, comme on disait à l'époque en studio, le chanteur est à Paris, l'orchestre à Strasbourg. Parce que c'était la voix en avant, on n'entendait pas bien les guitares, on n'entendait pas bien les batteries. Alors ça, les batteries, c'était presque interdit, quoi.
Et là, soudain, c'était tout le monde ensemble.
Ah ouais, c'était un groupe, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous, dans votre tête, dans votre corps?
Ah bah moi, j'ai tout de suite voulu acheter d'abord un électrophone. Un électrophone, bien sûr, et puis les disques de Bill Haley, et puis voilà.
Et vous vouliez lui ressembler?
Non, parce que physiquement, c'était quand même pas terrible. C'était... Il était plus proche de E.T. que de Steve Granger. Non, le pauvre, il avait un œil de verre, il avait le cheveu rare avec un accroche-cœur, il avait un peu de bide. Non, c'était pas... On n'a pas envie de ressembler à Bill Haley, mais on a envie d'être Bill Haley quand même.
Vos premiers disques de Bill Haley, je crois que c'est Johnny qui vous les a prêtés, je crois.
Non, attention. ne changeons pas l'histoire. Non, quand j'ai rencontré Johnny la première fois, c'était une surprise partie. Et au moment de récupérer mes disques que j'avais amenés, c'était Gene Vincent, etc. Je ne trouve pas et je descends. Et il y avait Johnny qui est en train de dire à la concierge, tenez, je vous les confie, je repasserai demain. Alors donc, on s'est pas bien entendu. Et après, bon, ça s'est très bien passé. J'étais chez lui et il avait Don't Knock the Rock de Bill Haley en pressage américain.
Et c'est son beau-père qui lui envoyait des États-Unis.
Oui. Alors là, je dis, ça, c'est un monsieur, ça.
Et quelle aventure musicale est-ce que vous avez vécue avec lui, Johnny?
Moi, je disais bien, moi, j'étais chanteur d'orchestre, quoi. Et lui, quand même, s'appelait déjà Johnny Hallyday, et chantait au club Polanka. Ouais, chantait au club Polanka, qui se trouvait sur les grands boulevards, boulevard des Italiens, par là. Et ce qui m'avait plu chez lui, c'est qu'il chantait du Lonnie Donegan. Alors, Lonnie Donegan, aujourd'hui, on dit Lonnie Donegan, personne ne sait qui c'est, mais ça a été une énorme star en Angleterre, aux États-Unis aussi, en Irlande aussi, parce qu'il était irlandais. Et il chantait Dead or Alive, une chanson que j'adore. Et d'ailleurs, on l'a chantée ensemble et on l'a rechantée pour les vieilles canailles.
Vous n'êtes jamais quitté musicalement, en fait?
Non. Oh, non. Puis même dans la vie. Bon, on s'engueulait de temps en temps, mais pour des bêtises.
Sur quoi?
Oh, c'est marrant parce que j'ai rêvé il n'y a pas longtemps un truc qui nous était arrivé. Nous étions à Saint-Tropez. Il m'appelle et il me dit Viens, j'ai une surprise. On va à un bal costumé. Je fais moi, tu sais, bal costumé. Bon, enfin, j'arrive chez lui. Il était en mousquetaire. Il me dit, j'ai un costume pour toi. Je dis, ah non, pas du tout. Si jamais je mettrais ça. Moi, je me vois pas avec des fleurs dans le chapeau, avec des plumes et des trucs. Non, je veux pas. Puis on s'est engueulé. Puis ouais, alors viens, on va s'habiller en pirate ça là.
Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui?
Sa mauvaise foi, bien sûr. Et pourtant, je suis le président.
Vous êtes le président de la mauvaise foi?
De MFE, mauvaise foi évidente.
Vous en avez fait preuve pendant cette interview ou pas?
Non.
Je vous en remercie beaucoup, Eddie Mitchell, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que la même tribu, votre nouveau disque sur lequel vous accompagne, notamment Thomas Dutronc, Véronique Sanson, Juliette Armanet, Maxime Le Forestier et tant d'autres, c'est déjà dans les bacs. C'est une formidable façon de redécouvrir votre travail.
Et c'est la fête des mères.
Et c'est la fête des mères en plus. Tout de suite les médias.
Et la fête des pères aussi.
Sonia De Villers, juste après ça.
Sa cigarette, puis repousse le cendrier. se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassés et du fait vous êtes remerciés. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, oh, oh. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Sa femme et son banquier, la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour un travailleur émigré. Il se sent dépassé et du fait il est remercié.